Chapitre 4.
Il allait beaucoup mieux. Il reprenait du poids et des forces chaque jour, si l'on pouvait parler de jour. La lumière blanche et le bourdonnement n'avaient pas changé, mais la cellule était un peu plus confortable que celle où il avait été auparavant. Il y avait un oreiller et un matelas sur le lit de camp, et un tabouret pour s'asseoir. Il lui avait donné un bain et l'avait autorisé à se laver lui-même, relativement souvent, dans une bassine de métal. Il lui donnait même de l'eau plus chaude pour se laver. Il lui avait donné de nouveaux sous-vêtements et un nouveau bleu de travail. Ils avaient soigné son ulcère variqueux avec un onguent apaisant. Ils avaient arraché les chicots qui lui restaient et lui avaient donné une nouvelle dentition. Des semaines ou des mois avaient dû s'écouler. Il lui aurait été possible à présent de tenir le compte du passage des jours s'il en avait éprouvé le besoin, car il était nourri, selon toute apparence, à intervalles réguliers. Il recevait, selon ses estimations, 3 repas par jour. Parfois, il se demandait s'il les recevait durant la nuit ou durant le jour. La nourriture était étonnamment bonne, avec de la viande 1 fois sur 3. Une fois, il y eut même un paquet de cigarettes. Il n'avait pas d'allumettes, mais le garde, qui ne parlait jamais et qui lui apportait ses repas, pouvait lui donner du feu. La première fois qu'il essaya de fumer, cela le rendit malade, mais il persévéra et fit durer le paquet un long moment en fumant une demi-cigarette après chaque repas. Il lui avait donné une ardoise blanche avec un stylo effaçable accroché à un coin. Au début, il ne s'en servit pas. Même lorsqu'il était éveillé, il était dans un état de torpeur complète. Souvent, il s'allongeait, entre un repas et le suivant, presque sans remuer, parfois endormi, parfois éveillé en de vagues rêveries, où il lui coûtait trop d'ouvrir les yeux. Il s'était depuis longtemps habitué à dormir avec une forte lumière dans la figure. Cela ne faisait pas de différence, sauf que les rêves étaient plus cohérents. Il rêva beaucoup pendant toute cette période, et c'était toujours des rêves heureux. Il était au pays d'or, ou bien il était assis parmi des ruines immenses, glorieuses et ensoleillées, avec sa mère, avec Julia, avec O'Brien, ne faisant rien, juste assis au soleil, à parler de choses paisibles. De même, les pensées qu'il avait, une fois éveillé, concernaient essentiellement ses rêves. Il semblait avoir perdu le pouvoir de l'effort intellectuel, maintenant que le stimulus de la douleur avait été retiré. Il ne s'ennuyait pas, il n'avait aucun désir de parler ou de se distraire. Être tout simplement seul, sans être battu ou interrogé, avoir assez à manger et être propre, suffisait à le satisfaire pleinement. Par degrés, il en vint à passer un peu moins de temps à dormir, mais il ne ressentait toujours aucun désir de se lever de son lit. Tout ce dont il avait envie était de rester tranquillement allongé et de sentir la force revenir dans son corps. Il se tâtait lui-même, ici et là, pour s'assurer que ce n'était pas une illusion, que ses muscles se renforçaient et que sa peau se retendait. Finalement, il fut indubitable qu'il était en train de grossir. Ses cuisses étaient maintenant décidément plus épaisses que ses genoux. Après cela, d'abord avec une certaine réticence, il commença à faire un peu d'exercice régulièrement. En peu de temps, il fut capable de marcher 3 kilomètres, mesurés en comptant les pas dans la cellule, et ses épaules voûtées se redressèrent. Il parvint à faire des exercices plus élaborés et fut surpris et humilié de découvrir tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas aller plus vite que la marche. Il ne pouvait pas tenir son tabouret à bout de bras. Il ne pouvait se tenir sur une seule jambe sans tomber. Il s'accroupit sur ses talons et se rendit compte par d'atroces douleurs aux talons et aux mollets qu'il pouvait tout juste se remettre debout. Il s'allongea à plat ventre et essaya de faire des pompes. C'était sans espoir. Il ne put se soulever du moindre centimètre. Mais après quelques jours, quelques repas, il réussit même cet exploit. Un jour vint où il put le faire 6 fois d'affilée. Il commençait à être réellement fier de son corps et à caresser l'espoir intermittent que son visage aussi était en train de redevenir normal. ce n'était que lorsqu'il lui arrivait par hasard de mettre la main sur son crâne chauve qu'il se souvenait du visage couturé, ruiné, qui lui avait rendu son regard dans le miroir. Son esprit se fit plus actif. Il s'assit sur le lit de camp, son dos contre le mur et l'ardoise sur les genoux, et se mit délibérément au travail pour se rééduquer. Il avait capitulé, cela était acquis. En réalité, comme il le voyait maintenant, il avait été prêt à capituler bien longtemps avant d'en prendre la décision. À partir du moment où il fut à l'intérieur du ministère de l'amour, et oui, même pendant ces minutes où lui et Julia s'étaient tenus impuissants pendant que la voix de métal de l'écrantel leur disait quoi faire. Il avait pris conscience de la frivolité, de la vacuité de sa tentative de s'élever contre la puissance du parti. Il savait maintenant que pendant 7 ans, la police de la pensée l'avait observé comme un scarabée sous une loupe grossissante. Il n'y avait pas d'acte physique, pas de mots prononcés qu'ils n'eussent remarqués, pas de pensée qu'ils n'eussent été capables d'inférer. Même le grain de poussière blanchâtre sur la couverture de son journal, il l'avait soigneusement replacé. Il lui avait fait écouter des enregistrements, montrer des photos. Certaines étaient des photos de Julia et de lui. Oui, même... Il ne pouvait plus combattre le parti, plus longtemps. En plus, le parti avait raison. Il devait en être ainsi. Comment un cerveau collectif et immortel pourrait-il se tromper? À quel standard externe pouviez-vous comparer ses jugements? La santé était statistique. Il fallait simplement apprendre à penser comme eux. Seulement. Le stylo lui paraissait gros et incommode entre ses doigts. Il commença à coucher par écrit les pensées qui lui venaient à l'esprit. Il écrivit d'abord, en grosses lettres capitales maladroites,
« La liberté est un esclavage. »
Puis, presque sans s'interrompre, il écrivit en dessous
« 2 et 2 font 5. »
Mais alors survint une sorte de blocage. Son esprit, comme s'il s'effarouchait de quelque chose, semblait incapable de se concentrer plus avant. Il savait qu'il savait ce qui venait après, mais pour le moment, il ne pouvait s'en souvenir. Quand il y parvint, ce fut uniquement par un raisonnement conscient qu'il déduisit ce que cela devait être. Cela ne vint pas tout seul. Il écrivit
« Dieu et puissance ».
Il acceptait tout. Le passé était altérable. Le passé n'avait jamais été altéré. L'Océanie était en guerre contre l'Estasie. L'Océanie avait toujours été en guerre contre l'Estasie. Jones, Aronson et Rutherford étaient coupables des crimes dont on les accusait. Ils n'avaient jamais vu la photographie qui les disculpait. Cette photographie n'avait jamais existé. Ils l'avaient inventée. Ils se souvenaient d'avoir eu d'autres souvenirs, mais il s'agissait de faux souvenirs, produits d'une sorte d'illusion. Comme tout était facile. Il suffisait de se rendre et tout le reste suivait. C'était comme de nager contre un courant qui vous ramenait en arrière, aussi fort que vous luttiez, et puis soudainement de décider de faire demi-tour et d'aller dans le sens du courant plutôt que de vous y opposer. Rien ne changeait en dehors de votre attitude. La chose prédestinée arrivait dans tous les cas. Il ne savait même plus pourquoi il s'était un jour rebellé. Tout était facile, sauf... Tout pouvait être vrai. Les prétendues lois de la nature étaient une absurdité. La loi de la gravité était une absurdité.
« Si je le souhaitais, »
avait dit O'Brien,
« je pourrais flotter au-dessus du sol comme une bulle de savon. »
Winston avait compris.
« S'il pense qu'il flotte au-dessus du sol, et si, simultanément, je pense que je le vois flotter, alors la chose arrive. »
Soudain, comme un bloc se détachant d'une épave coulée et crevant la surface de l'eau, la pensée éclata dans son esprit.
« La chose n'arrive pas vraiment. On l'imagine. C'est une hallucination. »
Il refoula cette pensée instantanément. L'erreur était évidente. Elle présupposait que quelque part, en dehors de soi, il y avait un vrai monde où des choses réelles arrivaient. Mais comment pourrait exister un tel monde? Quelle connaissance avons-nous de quoi que ce soit à part de nos propres esprits? Tous les événements sont dans l'esprit. Tout ce qui arrive dans l'ensemble des esprits arrive réellement. Il n'eut aucune difficulté à rectifier son erreur et ne fut pas en danger d'y succomber. Il réalisa cependant qu'une telle pensée n'aurait même pas dû lui venir. L'esprit devait créer un angle mort à chaque fois qu'une pensée dangereuse se présentait. Ce processus devait être automatique, instinctif. Stop crime, comme on le disait en neuf langues. Il se mit à s'exercer au stop crime. Il se représenta des propositions. Le parti dit que la terre est plate. Le parti dit que la glace est plus lourde que l'eau. Et s'entraîna à cesser de voir ou de comprendre les arguments qui les contredisaient. Ce n'était pas facile. Cela demandait de grandes capacités de raisonnement et d'improvisation. Les problèmes arithmétiques soulevés par exemple par une proposition telle que 2 et 2 font 5 étaient au-delà de sa capacité intellectuelle. Il fallait alors une sorte de gymnastique de l'esprit, être capable de faire usage à un moment donné de la logique la plus délicate et être capable, un moment après, de se montrer indifférent aux plus grossières erreurs logiques. La stupidité était aussi nécessaire que l'intelligence et aussi difficile à atteindre. Pendant tout ce temps, avec une partie de son esprit, il se demandait dans combien de temps il l'exécuterait.
« Tout dépend de vous »,
avait dit O'Brien. Mais il savait qu'il n'y avait aucun acte conscient par lequel il pourrait raccourcir l'échéance. Cela pouvait être dans 10 minutes ou dans 10 ans. Il pouvait le garder des années confiné dans sa solitude. Il pouvait l'envoyer dans un camp de travail. Il pouvait le relâcher pour un temps comme il le faisait parfois. Il était parfaitement possible qu'avant d'être exécuté, le drame de son arrestation et de son interrogatoire dût être rejoué entièrement. La seule chose certaine était que la mort n'arrivait jamais au moment où on l'attendait. La tradition, une tradition informulée, que vous connaissiez confusément sans qu'on vous l'ait jamais décrite, était qu'il vous tirait une balle par derrière, toujours dans la nuque, sans préambule, tandis que vous marchiez le long d'un couloir d'une cellule à une autre. Un jour, mais un jour n'était pas le mot juste, cela pouvait tout aussi bien être au milieu de la nuit. Une fois, il tomba dans une étrange et bienheureuse rêverie. Il marchait le long d'un couloir, dans l'attente de la balle. Il savait qu'elle arriverait, d'un moment à l'autre. Tout était arrangé, lissé, réconcilié. Il n'y avait plus de doute, plus d'arguments, plus de douleur, plus de peur. Son corps était fort et vigoureux. Il marchait facilement, avec une joie de bouger, comme s'il marchait dans la lumière du soleil. Il n'était plus dans les étroits couloirs blancs du ministère de l'amour. Il était dans l'énorme couloir ensoleillé d'un kilomètre de large qu'il avait eu l'impression d'emprunter lors de son délire médicamenteux. Il était au pays d'or, suivant le sentier à travers la vieille pâture broutée par les lapins. Il pouvait sentir le gazon ras et élastique sous ses pieds et les doux rayons du soleil sur son visage. Au bout du champ étaient les ormes, remuant légèrement, et quelque part au-delà, il y avait le cours d'eau dans lequel les carpes nageaient dans des vasques vertes, sous les saules. Soudain il s'éveilla, glacé d'effroi. La sueur inondait son dos. Il s'était entendu lui-même crier à haute voix
« Julia, 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 mon amour, Julia !»
Pendant un instant, il avait eu une hallucination accablante de sa présence. Elle ne semblait pas seulement être à côté de lui, mais à l'intérieur de lui. C'était comme si elle était entrée dans la texture de sa peau. À cet instant, il l'avait aimée beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais aimée lorsqu'ils étaient ensemble et libres. Et il savait que quelque part, elle était encore en vie et avait besoin de son aide. Il s'allongea sur son lit et essaya de se reprendre. Qu'avait-il fait? Combien d'années avait-il ajouté à sa servitude par ce moment de faiblesse? Dans un moment, il allait entendre le bruit des bottes à l'extérieur. Il ne pouvait pas laisser une telle explosion impunie. Il saurait maintenant, si toutefois il l'avait ignoré jusque-là, qu'il ne respectait pas le contrat qu'il avait passé avec eux. Il obéissait au parti, mais il le haïssait toujours. Jadis, il avait caché un esprit hérétique derrière une apparence de conformité. Maintenant, il s'était retranché un pas en arrière. Son esprit s'était rendu, mais il avait espéré conserver l'intimité de son cœur, inviolé. Il savait qu'il était dans l'erreur, mais il préférait être dans l'erreur. Il le comprendrait, O'Brien le comprendrait. Tout était avoué dans cet unique et stupide cri. Il lui faudrait tout recommencer. Cela prendrait peut-être des années. Il se passa une main sur le visage, tâchant de se familiariser avec sa nouvelle apparence. Il y avait de profonds sillons dans les joues, les pommettes étaient saillantes, le nez aplati. De plus, depuis la dernière fois où il s'était vu dans le miroir, on lui avait donné une nouvelle dentition. Il n'était pas facile de demeurer impassible quand vous ne saviez pas à quoi votre visage ressemblait. De toute façon, un simple contrôle des traits était insuffisant. Pour la première fois, il perçut que si vous vouliez garder un secret, il fallait aussi vous le cacher à vous-même. Vous deviez avoir conscience de sa présence tout le temps, mais tant que ce n'était pas nécessaire, vous ne deviez jamais le laisser affleurer à votre conscience, sous quelque forme nommable que ce soit. À partir de maintenant, il ne devrait pas seulement penser droit, il devrait sentir droit, rêver droit. Et tout ce temps, il devrait garder sa haine enfermée à l'intérieur de lui, comme une boule de matière qui était à la fois une partie de lui et déconnectée du reste de son corps, à la manière d'un kyste. Un jour, il déciderait de l'exécuter. Vous ne saviez pas quand cela arriverait, mais il devait être possible de le deviner quelques secondes avant. Toujours par derrière, pendant qu'on marchait le long d'un couloir. 10 secondes seraient assez. Dans ce laps de temps, le monde à l'intérieur de lui pouvait basculer. Et alors soudain, sans un mot articulé, sans une hésitation dans son pas, sans changer une ligne de son visage, soudain, il tomberait le masque et bang! Sa haine se remettrait en marche. La haine l'emplirait comme une énorme flamme rugissante et presque au même moment, bang! La balle fuserait, trop tard ou trop tôt. Il mettrait son cerveau en pièces avant de pouvoir le réparer. La pensée hérétique serait impunie, sans remords, hors de leur atteinte pour toujours. Ils auraient fait un trou dans leur propre perfection. Mourir en les haïssant, c'était la liberté. Il ferma les yeux. C'était plus difficile que d'accepter une discipline intellectuelle. Il fallait se dégrader soi-même, se mutiler soi-même. Il lui fallait plonger dans la plus sale des saletés. Quelle était la chose la plus horrible, celle qui donnait le plus la nausée? Il pensa à Big Brother, l'énorme visage, parce qu'il l'avait toujours vu sur des affiches, il y pensait toujours comme à une chose d'un mètre d'envergure. Avec sa lourde moustache noire et ses yeux qui vous suivaient partout, semblait flotter à l'intérieur de son esprit, animé d'un mouvement propre. Quels étaient ses vrais sentiments envers Big Brother? Il y eut un lourd martèlement de bottes dans le couloir. La porte d'acier s'ouvrit en battant bruyamment. O'Brien entra dans la cellule. Derrière lui était l'officier au visage de cire et les gardes en uniforme noir.
« Levez-vous, »
dit O'Brien.
« Venez par ici. »
Winston se posta en face de lui. O'Brien prit les épaules de Winston entre ses mains fortes et le regarda de près.
« Vous avez pensé à me tromper, »
dit-il.
« C'était idiot. Tenez-vous plus droit. Regardez-moi dans les yeux. »
Il s'arrêta et continua d'une voix plus douce.
« Vous faites des progrès. Intellectuellement, il reste très peu de mauvais en vous. C'est seulement au niveau émotionnel que vous avez échoué dans votre progression. Dites-moi, Winston, et souvenez-vous, pas de mensonge. Vous savez que je suis toujours capable de détecter un mensonge. Dites-moi, quels sont vos véritables sentiments envers Big Brother? Je le hais. Vous le haïssez. Bien. Alors, le temps est venu pour vous de franchir la dernière marche. Vous devez aimer Big Brother. Ce n'est pas suffisant de lui obéir. Il faut l'aimer.
Il relâcha Winston en le poussant légèrement vers les gardes.
« Salle 101 »,
dit-il.